Marie Sorbier qui a toujours des réponses à des questions étranges. Bonsoir Marie.
Bonsoir Arnaud. Dans l'histoire de l'art, il y a toujours eu des exercices pour peindre à la manière d'eux, par exemple. Mais nous avons franchi un stade et ce sont des programmes que l'on désigne sous le nom générique d'intelligence artificielle qui, en absorbant des bases de données, sont aujourd'hui capables de créer un nouveau Caravage ou une nouvelle chanson de Noël chantée par Sinatra. Sophie Gossens, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocate spécialisée sur les questions de droit d'auteur autour de ces nouvelles formes de création. Peut-on dire, selon vous, que l'intelligence artificielle crée de l'art? Ou plus précisément, cette création, comment est-elle considérée juridiquement?
Alors, il y a deux grands sujets dans la question que vous posez, qui sont les deux sujets que l'on retrouve à chaque fois que l'on parle d'intelligence artificielle créative. On a un premier sujet qui capture généralement toute l'attention, qui est de savoir si un robot peut créer, ou plus exactement, si la création d'un robot mérite la protection du droit d'auteur. Et si on arrive à une conclusion positive, de savoir qui va revendiquer cette paternité. On se souvient par exemple des selfies de macaques à l'époque qui avaient créé la polémique autour de la question de savoir si cette photo pouvait, oui ou non, accéder à la protection du droit d'auteur et surtout de savoir si le macaque pouvait en être l'auteur. Ici, on est à peu près sur ce même débat philosophique de savoir si un robot, finalement, peut lui aussi accéder, enfin pas le robot lui-même, mais en tout cas si son œuvre peut accéder à une forme de protection qui a bien évidemment été inventée à la base pour une société d'êtres humains. Le deuxième sujet que moi personnellement je trouve plus intéressant, en tout cas avec des conséquences immédiates beaucoup plus fortes, c'est de savoir comment ce qu'on fait pour appréhender, et en particulier dans l'industrie de l'art, ce qu'on appelle l'apprentissage ou aussi le machine learning, c'est-à-dire l'étape qui précède le moment où la machine devient créative. Quelle est la façon dont on arrive à faire en sorte qu'un algorithme, un jour, va être capable, lorsque l'on pousse sur un bouton, de créer, que ce soit un tableau, que ce soit une œuvre musicale ou un jeu vidéo. Durant la phase d'apprentissage, on se rend compte qu'il y a énormément d'étapes qui précèdent à cette phase d'apprentissage. Je ne sais pas si j'ai une définition scientifique du machine learning à vous donner, mais je pense qu'on fonctionne assez souvent par des exemples pour comprendre comment l'apprentissage est effectué. Il y a un exemple que moi j'aime beaucoup, qui est le produit du travail d'un scientifique et d'un musicien français, qui s'appelle François Pachet, qui a été pendant des années à la tête d'un laboratoire qui s'appelait Sony CSL à Paris, et qui, dans le cadre de ses travaux, a développé une machine qui s'appelle Flow Machine, qui permet de créer des œuvres et des enregistrements musicaux. L'un des enregistrements musicaux créés par cette machine qui a le plus fait parler de lui est une œuvre qui s'appelait Daddy's Car, qui était une œuvre dans le style des Beatles. Et pour arriver à cette œuvre, la machine a avalé, a reconnu, a été nourrie du catalogue entier des Beatles. Et on arrive ensuite à une machine qui arrive à créer dans le style d'eux. Cet exemple est très bon, il me semble, pour qu'on ait en tête la façon dont fonctionne le machine learning. Il faut bien comprendre qu'avant d'en arriver à être capable de créer une œuvre dans le style des Beatles, la machine a dû être exposée à des milliers d'heures de musique auparavant pour reconnaître qu'est-ce que c'est qu'un refrain, un pont, qu'est-ce que c'est que les schémas qui permettent de créer une œuvre musicale.
Mais dans le droit français aujourd'hui, comment on protège ces œuvres? Alors justement, est-ce que par exemple, dans l'exemple que vous citez, est-ce que les droits vont être versés aux Beatles, aux héritiers des Beatles, ou est-ce que justement c'est le créateur de la machine qui va récupérer ses droits? Comment ça marche aujourd'hui en France?
Mais c'est bien là toute la question. Il y a la façon dont ça marche aujourd'hui, mais il y a surtout la façon dont ça va marcher demain, qui est très intéressante parce qu'on voit que ça fait l'objet de débats philosophiques et même presque politiques et géopolitiques en ce moment même. La vraie question, et vraiment la question cruciale, est de savoir si les ayants droit des Beatles, dans mon exemple, mais aussi les ayants droit des milliers d'heures de musique qui ont été auparavant utilisées pour entraîner cet algorithme, vont, oui ou non, être susceptibles de revendiquer la protection du droit d'auteur, vont être susceptibles de dire non, vous n'avez pas le droit d'utiliser mon catalogue, ou oui, vous avez le droit. Est-ce qu'on peut donner aux ayants droit la faculté de s'opposer à ce que leurs œuvres soient utilisées de cette manière par l'intelligence artificielle? Et l'industrie a dit non, nous ne souhaitons pas autoriser les ayants droit à autoriser ou interdire l'utilisation de leurs œuvres pour l'intelligence artificielle. Et ils mettent en avant deux arguments, l'un qui est plutôt politique, l'autre qui est plutôt, on va dire, philosophique et culturel. Politiquement parlant, il y a clairement une course à l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et les pays qui font la course en tête ne veulent pas qu'il y ait d'entraves qui soient mises au développement de cette industrie, parce qu'il y aura des premiers, et il y aura probablement des derniers, et tout le monde sait que dans une course industrielle, souvent les premiers emportent une plus belle part du gâteau. Donc c'est un choix politique. Il y a aussi philosophiquement l'idée de dire, lorsque de la donnée se retrouve capturée au sein d'une œuvre, cela reste de la donnée, cette donnée doit être de libre parcours. On ne peut pas étendre le monopole des auteurs ou des ayants droit à des choses qui vont bien au-delà de l'œuvre et de l'originalité de l'œuvre. Dans le camp du non, on retrouve certains grands pays. On a par exemple, pour aller vite, évidemment, le débat est un peu plus sophistiqué, mais on va dire les États-Unis, au travers d'une exception qu'on appelle le fair use, ont pour l'instant décidé que ce qu'on appelle la fouille de données, donc le text et data mining, même quand il s'applique à des œuvres, que cette exception s'applique et donc que le monopole de l'auteur n'est pas mis en jeu. D'autres pays ont été, de façon plus directe, ont modifié leurs droits pour avoir des exceptions aux droits d'auteur qui soient claires en ce qu'elles ne s'appliquent pas à cette fouille de données. On a le Japon, on a la Chine, on a Singapour, donc d'autres pays qui font aussi la course à l'intelligence artificielle. Et nous, en Europe, on a une position un peu plus ambiguë. Aujourd'hui, en Europe, on n'a pas dans les textes européens d'exceptions qui permettent de faire de la fouille de données. La directive qui a été votée en 2019 sur le droit d'auteur et qui est en train d'être transposée en France et dans d'autres pays a modifié quelque peu cet état des choses en introduisant deux nouvelles exceptions. Une première pour la recherche, pas de problème, donc tout institut de recherche ou tout organisme qui fait de l'intelligence artificielle à des fins de recherche pourra désormais utiliser des œuvres avec une exception tout à fait en règle. Et ensuite, une autre exception a été introduite un peu à la dernière minute par le Parlement européen, un peu en catastrophe, sous la pression de l'industrie qui disait « mais et nous ?» La recherche, c'est bien, mais il y a aussi tout un pan industriel qui aimerait utiliser des œuvres et penser à la reconnaissance faciale, tout simplement, qui utilise des photographies. Donc, on en est arrivé où ? On est arrivé dans une exception qui a été introduite. Donc, nous avons une exception aujourd'hui, mais avec un grand « mais » qui est la possibilité d'opt-out, donc la possibilité pour les ayants droit de dire « je ne vais pas autoriser » l'application de cette exception concernant mon catalogue, mon répertoire, ma base d'œuvres. Et c'est là où on a une solution très, très étonnante et qui est inédite en Europe, c'est qu'on se retrouve avec une exception au droit d'auteur dont on peut se retirer. Ce qui est complètement inédit, n'a jamais existé dans la matière droit d'auteur auparavant et qui pose beaucoup de questions. Si vous êtes ayant droit, vous, pourquoi accepteriez-vous qu'on utilise votre catalogue si vous pouvez vous retirer de cette exception et au contraire essayer d'aller monnayer votre accord avec la personne qui entend se servir de vos œuvres. Donc on se demande vraiment si on ne va pas avoir une coquille vide ou une espèce d'exception mort-née au niveau européen.
Merci Sophie Gossens.
Eh bien merci Marie Sorbier pour cette réponse.